Restons dans les psaumes, alors que Dieu soit béni de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Et nous allons prendre le début du psaume 106, versets 1 à 5. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, que je me glorifie avec ton héritage. Louez l'Éternel. C'est une demande qui nous est faite, et j'espère que nous y répondrons. Elle nous est faite avec insistance, cette demande, dans les psaumes dont c'est la conclusion, puisque les deux derniers psaumes insistent sur la louange envers Dieu. Psaume 149, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Mais, et ça continue, mais surtout le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ça veut dire que son sanctuaire ici, c'est pas seulement un bâtiment, mais c'est l'univers entier. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Physiquement, vous respirez, donc déjà, la parole s'applique à chacun d'entre nous. Mais je pense que si nous respirons par le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit, alors là, la louange va jaillir de nos cœurs et de nos bouches, puisqu'il s'agit de dire avec la bouche lorsque on loue le Seigneur. Cette demande, eh bien, nous la voyons satisfaite dans l'Apocalypse. À la fin de tout, au chapitre 19, verset 1, qu'est-ce que nous entendons comme exclamation ? Après cela, j'entendis dans le ciel comme la forte voix d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, loué soit Dieu. Alléluia, c'est fait. Les choses sont accomplies maintenant. Et il reste dans l'éternité à louer et célébrer la gloire et les hauts faits du Seigneur, comme il est dit au psaume 150. Donc, si je reviens au psaume 106, louer l'Éternel, parce que nous avons des raisons, bien sûr, de louer l'Éternel, c'est parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure à toujours. Et là encore, pour que nous puissions louer le Seigneur, les psaumes insistent sur sa bonté et sa miséricorde. Et si le psaume 150 répète à chaque phrase « louer », l'Éternel, le psaume 136 répète à chaque phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui... a main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours. Qui précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Miséricorde rappelée en permanence et qui se décline en acte de la part de Dieu, en acte de pardon et de délivrance. Les hauts faits de l'Éternel. Il y en a quelques-uns qui sont mentionnés dans le psaume 136 que nous venons de lire. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Les hauts faits de l'Éternel, nous les trouvons encore décrit par exemple dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 7 à 37. C'est encore David. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Alors il y a la louange qui vient du cœur, la louange spontanée, et puis il y a aussi, en particulier dans le culte d'Israël, la louange organisée, la louange instituée. D'ailleurs, les instruments qui sont mentionnés au psaume 150, eh bien c'est David qui les a conçus pour que son peuple, les serviteurs de Dieu, puissent louer le Seigneur. Alors, ce fut pour la première fois que David chargea Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Je m'arrête ici parce que ce terme de 1000 générations, donc il se trouve au commencement, dans la révélation que Dieu fait à Moïse, qu'il étend sa bonté jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. 1000 générations. Si nous comptons Si nous essayons de compter depuis Adam, je crois que nous sommes encore loin des 1000 générations. C'est une des raisons pour lesquelles je me dis, peut-être le Seigneur n'est pas encore si proche, parce que s'il y a 1000 générations qui doivent bénéficier de sa bonté, si on compte, allez, 20 ans pour une génération, ce qui n'est normalement plutôt 40, hein, mais si on la réduit à 20 ans, ça fait 20 000 ans. 20 000 ans où le Seigneur fait grâce, répand sa bonté. Bon, à revoir, à réfléchir, mais en tout cas, le Seigneur continue de génération en génération à faire grâce, à faire miséricorde. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, venez en sa présence, adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. David laissa là devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches chaque jour. Devant l'arche qui vient d'être installée, le témoignage de la présence miséricordieuse de Dieu au milieu de son peuple. L'arche de bois et d'or, mais qui depuis, et qui disait l'alliance entre Dieu et son peuple, mais qui depuis a été remplacé par une présence vivante de Dieu au milieu de son peuple, qui est Jésus-Christ. Alors si le peuple d'Israël devait déjà louer et glorifier Dieu pour cette alliance par laquelle Dieu s'était uni à lui à travers la loi, les sacrifices mosaïques et à travers la présence de l'arche, combien plus nous, aujourd'hui, parmi tous les peuples et toutes les nations, nous devons rendre gloire à Dieu de son œuvre miséricordieuse en Jésus-Christ, de l'acte de pardon manifesté à la croix du calvaire. Alors, qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Ça veut dire, qui dira, ça veut dire qui comprendra les hauts faits de l'Éternel, qui pourra énumérer toutes ces louanges. Vous savez que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, alors qu'il décrit justement l'œuvre de Dieu à travers la miséricorde faite aux païens et le rejet temporaire d'Israël pour qu'il soit réintégré, conclut Ô profondeur de la sagesse, de la richesse, de la connaissance de Dieu. Je vous le lis donc Romains chapitre 11, verset 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Déjà Néhémie, alors qu'il a opéré un retour avec le peuple à Jérusalem pour rebâtir les murailles, Néhémie pouvait aussi demander au Seigneur, enfin au peuple de louer le Seigneur. Et nous lisons chapitre 9, verset 5 de ce livre. Alors, les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hachabnia, Sherebia, Odija, Shebania, Petadja, dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Dieu, le nom de Dieu qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Même lorsque nous commençons à louer Dieu pour le peu que nous en comprenions de sa grandeur, de sa bonté, de sa miséricorde, de ses hauts faits, eh bien, nous sommes encore loin de comprendre toute cette perfection de Dieu et toute sa manière d'agir en notre faveur. Donc, à notre mesure, louons et glorifions le Seigneur au fur et à mesure que nous rencontrons et que nous découvrons la miséricorde qu'il a eue envers nous et qu'il continue de déployer. Car pour Néhémie, eh bien, il y a après cette affirmation de, eh bien, toute la description, la fin du chapitre, toute la description de tous les égarements du peuple d'Israël. Et pourtant, Dieu a fait grâce, Dieu a ramené, Dieu a pardonné, Dieu a délivré ce peuple qui a constamment manifesté son incrédulité, sa faiblesse, ses désordres. Et le Seigneur, donc, s'il est miséricordieux, c'est bien parce que il vient nous chercher là où nous sommes perdus, là où nous avons fauté contre lui. C'est le contenu de la suite aussi du psaume 106. Au psaume 105, c'est un peu différent. Il est aussi question de louer le Seigneur. Mais au psaume 105, c'est la bénédiction initiale, l'action initiale de Dieu envers son peuple. Donc il n'est pas question, au psaume 105, des péchés du peuple, de ses désobéissances, de ses erreurs. Il est question de la faveur que Dieu a manifestée envers lui. Tandis qu'au psaume 106, intervient la miséricorde de Dieu par rapport à toutes les dérives de ce peuple qui pourtant a été béni. Alors, ensuite, il y a cette affirmation. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Le psaume 105 se terminait par « Afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois, louez l'Éternel. » Lorsque Dieu est allé chercher son peuple en Égypte, ce peuple ne connaissait pas la loi. Il ne connaissait pas la sainteté de Dieu. Il avait été préparé, il était au bénéfice des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc l'Éternel a manifesté sa grâce envers ce peuple en allant le chercher. Mais le but de Dieu, ce n'était pas seulement d'aller chercher ce peuple et de le sortir de l'esclavage, c'était de l'instruire sur ce qui est la vérité, la vraie vie, la sainteté. Et donc Dieu a sorti ce peuple, l'a amené au désert et lui a donné sa loi, lui a fait connaître sa justice, lui a fait connaître sa vérité. Et donc maintenant que le peuple possède la connaissance de Dieu par la justice qui est dans la loi, maintenant heureux celui qui observe la loi, qui pratique la justice en tout temps. La rédemption initiale d'Israël, afin de le mettre à part pour la pratique d'une loi sainte. Comment ne pas rechercher et admirer la loi d'un tel Dieu, d'un Dieu déjà si puissant, et d'un Dieu qui, sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour aller vers lui, est venu vers nous pour nous faire grâce et nous tirer du monde pécheur. Car il s'agit bien de cela, l'Égypte représente le monde pécheur, le monde sous la domination de Satan, et annonce que Dieu va venir pour tous les peuples, toutes les nations, chercher du milieu des nations un peuple qui lui appartienne, un peuple libéré de la domination ennemie. Donc comment ne pas rechercher et admirer la loi d'un tel Dieu ? La bonté, la fidélité, la miséricorde, la délivrance de l'Éternel ne peuvent jamais donner prétexte à négliger ou mépriser la loi. Car c'est le but pour lequel Dieu vient nous chercher, pour nous faire connaître et vivre selon la justice de sa loi. C'est par la loi sainte que nous sommes heureux. Si nous n'apprenons pas la loi de Dieu, jamais nous ne serons heureux. Jamais nous ne connaîtrons le bonheur sans l'intégration dans nos vies, dans nos cœurs, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. La justice de Dieu est concrète, lisible, et nous sommes heureux de la pratiquer. En tout temps, dit le psalmiste. Et si nous lisons Ésaïe chapitre 56, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Dans l'attente du jour parfait, du jour de la présence de Dieu, du jour de sa sainteté, de son jugement sur les mauvaises œuvres du monde, dans cette attente, ceux qui ont reçu le témoignage de sa grâce disposent leur cœur envers la loi sainte, cherchent à manifester déjà aujourd'hui cette vie que Dieu leur réserve. Donc nous observons ce qui est droit, nous pratiquons ce qui est juste lorsque nous connaissons la miséricorde de Dieu. Dans, bien sûr, vous connaissez aussi chapitre 1 de l'épître de Jacques, où il nous instruit de cette façon, 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, nous cherchons le bonheur, nous cherchons cette installation profonde dans nos vies, du contentement, de la sécurité, toutes ces choses que nous cherchons, nous les trouvons dans la mise en œuvre de la justice de Dieu, dans l'observation de ses préceptes, non pas des préceptes en lettres, comme dit l'apôtre, non pas la lettre de la loi, mais tout l'esprit qui anime la loi et qui a comme but de nous rapprocher de Dieu, de nous faire vivre les perfections de Dieu. Donc la miséricorde de Dieu nous amène là, à cette vie parfaite, à cette vie dans sa justice. Et cela est, bien sûr, le thème des épîtres des apôtres, parce que si l'évangile, eh bien, c'est la manifestation de la grâce dans sa plénitude, avec le travers le don de Jésus-Christ à la croix, eh bien, il y a ensuite la vie nouvelle que Dieu dispense par son Saint-Esprit, et les apôtres nous instruisent de toute cette vie nouvelle qui est la garante de notre bonheur. Et aujourd'hui, donc, le chrétien qui reçoit la miséricorde, la manifestation de la miséricorde de Dieu, qui le reçoit pour lui-même, entre dans une vie d'obéissance, de mise en pratique de la justice de Dieu révélée en Jésus-Christ. Alors ce passage de psaume 106 que j'ai pris en référence, donc je m'arrête aux versets 4 et 5, qui sont des versets quand même particuliers, puisque « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus et que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. » Ici, le cœur du bonheur, le cœur de l'attention, ce n'est pas la personne seule ici, c'est le peuple de Dieu. Le désir, alors celui qui parle, donc, ce psaume 106 et 105 ne sont pas titrés, on ne sait pas qui les a écrits, mais voilà, ils font 104, 105, 106, il n'y a pas d'auteur. Par contre, 103, qui commence la série, psaume de David. Alors, il est très probable que ce soit ici David qui s'exprime en tant que roi. David, en tant que roi, demande à Dieu de lui faire grâce pour que lui, le roi, voie le bonheur du peuple de Dieu. Le bonheur de tes élus, la joie de ton peuple, la gloire de ton héritage. Voilà ce que demande le psalmiste. Ça, c'est le projet de Dieu. Dieu veut donner le bonheur à ses élus. Dieu veut la joie de son peuple. Dieu veut la gloire de son héritage. Mais ici, curieusement, cela semble passer par l'attention de Dieu pour celui qui intercède. Souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, que je puisse voir le bonheur de ton peuple, de tes élus. Ça veut dire, souviens-toi de moi, ça veut dire, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Parce que mon désir rejoint ton intention bienveillante. Souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Je me suis accordé avec toi, Seigneur, et je voudrais voir ce que toi, tu veux. J'ai été établi comme roi, et mon seul désir, c'est de régner pour voir ta gloire au milieu de ton peuple. Donc, David a vraiment des désirs pour le peuple de Dieu. Il désire que le peuple de Dieu donc soit dans la joie. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi d'ailleurs que David a conduit le peuple avec des mains intelligentes. Il a vraiment manifesté la justice de Dieu. Il vivait c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui ne cherchait pas, comme les rois en général et les dirigeants des nations, comme Jésus le dit, qui dominent sur les nations, en fait, à leur profit. David était vraiment le serviteur de son peuple pour la révélation de Dieu au milieu de son peuple. Et en cela, il était vraiment une figure de Christ dans son désir pour l'Église. Jésus-Christ a aimé l'Église. Il s'est donné, il s'est livré pour elle, pour la sanctifier, pour qu'elle puisse être revêtue de la gloire de Dieu. Le bonheur des élus, la joie du peuple, la gloire de l'héritage. Maintenant, ce n'est plus seulement dans le peuple d'Israël que nous devons le rechercher, c'est dans l'Église, parce que Jésus a donné sa vie pour cette Église. Et alors, voilà, on peut dire peut-être que cette demande, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, c'est peut-être aussi la prière de Jésus sur la croix, là où il demande au Père le pardon, là où il demande au Père la délivrance pour tous ceux qui sont sous la domination de Satan et qui a été exaucé, bien sûr, par sa résurrection d'entre les morts. C'est la prière de Jésus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui notre prière pour la communauté locale? Est-ce que nous pouvons, nous placer de la même façon dans ce regard envers la communauté locale et dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, j'aime ton Église, je voudrais voir le bonheur de ton Église, je voudrais voir le bonheur de tes élus qui se rassemblent pour glorifier ton nom, je voudrais voir tous ceux que tu assembles ici et desquels je fais partie. Je voudrais contempler leur bonheur, je voudrais contempler leur épanouissement en Christ, je voudrais les voir se réjouir de ton salut. Si chacun d'entre nous porte cette prière et demande à Dieu de l'exaucer dans ce sens-là, de l'entendre parce qu'il y a son cœur qui vibre au diapason de celui de Christ, alors combien le Seigneur ne va-t-il pas pouvoir agir, pouvoir manifester concrètement sa miséricorde, sa justice, sa délivrance, opérer au milieu encore de ses enfants réunis. Oui, bienheureux ceux qui intègrent pour eux-mêmes cette prière et qui désirent la joie et l'épanouissement de l'Église. Alors, bien sûr, l'Église universelle, le peuple que Dieu est en train de rassembler dans le monde entier, et combien nous pouvons porter aussi tout ce peuple dans nos cœurs. Mais là où nous sommes rassemblés, là où nous connaissons personnellement les chrétiens ou ceux qui s'approchent de la foi, eh bien, nous demandons pour eux la manifestation de la miséricorde de Dieu, nous demandons pour eux le bonheur. Nous désirons voir une Église heureuse de bénéficier de la grâce et de la miséricorde de Dieu. à chaque fois, bien sûr, si je lis psaume 105, 43, alors qu'il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Ça a déjà eu lieu. Mais à chaque fois que Dieu fait miséricorde, eh bien, c'est une occasion de célébrer sa gloire, de le louer, comme à la fin de ce psaume 106, verset 47, « Sauve-nous, éternel notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, louez l'éternel ». Combien plus quand Dieu a décidé de faire miséricorde à toutes les nations. Et combien un chant de louange s'élève de toute la terre parce que Dieu a fait miséricorde aux païens, comme Paul peut le dire au chapitre 15 de l'Épître aux Romains, les païens glorifient Dieu maintenant pour sa miséricorde. Et puis un jour, eh bien, ce sera l'Église et Israël, l'Israël sanctifié, qui ensemble célébreront la miséricorde de Dieu. Nous sommes, bon, je disais tout à l'heure, bien sûr qu'on peut réfléchir sur les temps qui passent, mais nous sommes quand même dans un moment où le Seigneur a fait grâce de rassembler Israël sur la terre qu'il lui avait donnée initialement. Et nous attendons ce moment où, eh bien, cet Israël rassemblé va aussi reconnaître son Messie, va aussi s'humilier devant lui, va aussi faire maintenant un seul peuple pour glorifier la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Alors, Ésaïe 66, versets 10 à 11. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et enfin, Sophonie, au chapitre 3, versets 14 à 20, pour conclure. Mais avant de lire ce passage, je veux relever le fait que dans cette salle, nous sommes réunis déjà de nations différentes de la terre. Et que le Seigneur, nous avons bénéficié donc en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, de la même grâce. Et nous sommes aujourd'hui précisément de ces différents continents qui sommes réunis par l'œuvre de Jésus-Christ pour célébrer son amour. Je bénis le Seigneur pour cela. Sophonie 3, 14 à 20 pousse des cris de joie. Fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. dans tous les pays où ils sont en opprobre, en ce temps-là je vous ramènerai, en ce temps-là je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Fin de la prophétie de Sophonie. Eh bien, le Seigneur a pour nous tous cette même œuvre de grâce. Et comment passer à côté, donc, de la croix de Jésus sans nous incliner, sans bénir notre Dieu et sans repartir de là en le célébrant et en le louant, parce que c'est bien là qu'il a effacé toutes nos fautes et qu'il a la puissance pour intervenir encore envers tous les pécheurs, quelle que soit la forme de leur péché. Jusqu'à la fin, le Seigneur appellera et délivrera par sa miséricorde. Amen.